Le FLNKS va de nouveau rencontrer le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, pour des discussions sur l'avenir institutionnel, mais attend de voir ses propositions avant de décider de la suite. Le devoir de mémoire en Nouvelle-Calédonie. Un dépôt de gerbes s'est déroulé ce matin à l'occasion de la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation. 20 000 personnes étaient réunies ce week-end au parc Fayard pour la fête de l'omelette géante de Dumbéa. Plus de 4 000 barquettes ont été servies aux visiteurs. Le Vatican entame 9 jours de deuil. Après cela, 135 cardinaux seront chargés d'élire le successeur du pape François lors d'un conclave. Le sport avec du karting sur le territoire. Ce matin se déroulait la première manche du championnat de Calédonie. Et puis les sports mécaniques avec de la moto. Les pilotes sont en Espagne ce week-end pour le 5e Grand Prix de la saison. Bonsoir à tous. Le FLNKS va poursuivre les discussions avec le ministre des Outre-mer, mais il attend de voir la proposition que le ministre mettra sur la table avant de décider de la suite qu'il donnera à ses rencontres. C'est ce que l'on retient de la convention qui était réunie hier à Yaté, Léo Fichou.
Elle a été ouverte par la lecture par Laurie Oumouni d'une lettre de Christian Théin. Depuis sa cellule de Mulhouse, le président du FLNKS estime, et je cite, que le projet d'accord version Valls ne correspond pas à nos propositions, mais que c'est plutôt un énième statut au sein de la République, prolongeant ainsi la colonisation pour plusieurs années. S'agissant du contenu, l'accord de Nouméa demeure la base des négociations futures, écrit Christian Théin. Et il fixe toujours comme objectif la signature d'un accord de Kanaiki au plus tard le 24 septembre 2025. Un accord qui devra préciser la date effective d'accession à l'indépendance avant la fin du mandat présidentiel en 2027. La convention du FLNKS a décidé de reprendre les discussions à l'arrivée de Manuel Valls, mais dès le 1er mai, le FLNKS réunira de nouveau ses instances pour examiner le projet que le ministre des Outre-mer aura posé sur la table. C'est ce qu'expliquait hier soir Romuald Pidgeot, le secrétaire général adjoint de l'UC à l'issue de la convention.
Il y a eu de la discussion comme à chaque convention, pas dire que ça a été houleux. Donc on a pris acte de l'arrivée du ministre le 30 avril. Suite aux rendus qui ont été faits par l'équipe de discussion, la convention a décidé d'aller rencontrer le ministre parce que le ministre devrait nous proposer quelque chose à son retour. Ce qui a été décidé aussi, c'est qu'on se revoit le 1er mai, donc le lendemain. Et à partir de ce que nous aura rendu le ministre, on verra quelle suite on donne dans la séquence avec le ministre de l'Outre-mer.
Des propos recueillis par Kelinda Boicou. Et au stade actuel, le FLNKS parle toujours de discussion, mais pas encore de négociation. Dans son courrier, Christian Théin estime par ailleurs impératif de privilégier le format bilatéral avec la puissance administrante et la supervision de l'ONU.
De son côté, l'UPM organisait hier à Vaud son comité central. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour. La quarantaine de membres réunis a évoqué la situation politique sur le territoire, mais aussi en métropole avec le gouvernement Bayrou. Un tour complet des dossiers qui occupent l'actualité calédonienne comme le nickel, Enercal, la transition alimentaire ou encore la CAFAT a été réalisée. Selon son président Victor Tutugoro, pour avancer dans la bonne direction, il est impératif de trouver un compromis politique. Une cérémonie pour se souvenir. Aujourd'hui est célébrée la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation dans les camps de concentration et d'extermination nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. En Nouvelle-Calédonie, c'est à la Croix de Lorraine, à Nouméa, qu'un dépôt de gerbes a eu lieu en présence des autorités civiles et militaires. Parmi les personnalités présentes, Philippe Blaise Ier, vice-président de la province sud, qui a tenu à assister à la cérémonie.
La Calédonie, c'est une terre gaulliste qui a contribué à la France libre, qui porte en elle les valeurs de défense de l'ensemble des religions, de l'ensemble de l'humanité. Et ça prend plus de sens aujourd'hui avec la montée de l'antisémitisme en métropole. À titre personnel, je me suis toujours engagé dans la défense de la communauté juive et je trouve que ce qui se passe ébranle les fondements même de la République. Donc c'était important pour moi d'être là ce matin pour marquer notre détermination à défendre tous les Français et plus particulièrement nos compatriotes juifs.
Pour Sonia Lagarde, maire de Nouméa, célébrer cette journée est un véritable devoir de mémoire.
C'est des moments importants, c'est important d'être là et c'est important de se souvenir de ces moments extrêmement noirs et en particulier celle du sort qui a été réservé aux Juifs. Et ça nous permet de réfléchir pour dire que plus jamais ça, Il faut qu'on essaie tous ensemble de vivre dans un monde de paix, un monde harmonieux. Alors on peut toujours rêver, fantasmer, mais je crois que ça s'impose parce que on vit dans un monde extrêmement perturbé aujourd'hui. Et je crois que ces moments-là sont des moments privilégiés pour réfléchir.
Philippe Messman, président de l'Association culturelle israélite de Nouvelle-Calédonie, était quant à lui présent à la cérémonie avec sa petite fille.
Chaque année, depuis la fin de la guerre mondiale, il est important de commémorer ce devoir de mémoire. C'est ce qui est indiqué dans le discours des associations de rescapés de la déportation. Il est important de marquer, c'est aussi pour ça que je suis venu aujourd'hui avec ma petite fille pour justement ce devoir de mémoire et lui faire comprendre ce qui s'est passé il y a 80 ans aujourd'hui pour que ça ne se renouvelle pas.
Lors de cette cérémonie, un message de Patricia Mireles, ministre déléguée auprès du ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, a également été lu. Voyons maintenant de quoi la semaine sera faite. Une semaine qui se terminera par un pont. Jeudi sera en effet le 1er mai, jour de la fête du travail et donc jour férié. Pour les catholiques, le mois de mai et le mois de Marie. Et comme chaque année, l'association Notre-Dame du Pacifique organise les 24 heures de prière au pied de la statue. Elles débuteront à 16h mercredi. Et notez également que demain est le jour de la Saint-Pierre Chanel, missionnaire à Wallis et Futuna, où il est devenu l'un des martyrs de l'Océanie. Une messe sera célébrée demain à 9h en la cathédrale de Nouméa et sera présidée par Monseigneur Sione Poé. La semaine sera également marquée par l'arrivée du ministre des Outre-mer, Léo Fichou.
Manuel Valls doit arriver mardi pour un séjour de 10 jours qui sera essentiellement consacré à la poursuite des discussions sur l'avenir avec les délégations politiques calédoniennes. En fin de semaine, le haut-commissaire Louis Lefranc, qui est resté plus de 2 ans en poste, quittera le territoire. Son successeur Jacques Billan doit arriver le lendemain. Dans le reste des rendez-vous à retenir, les élus du Congrès siégeront en séance publique à 2 reprises. Demain après-midi, ils étudieront 4 projets de délibération concernant le secteur de la santé. Mardi, ce sont 2 projets de loi du pays et 3 délibérations qu'ils doivent étudier. Des textes qui portent tous sur l'environnement. On notera que mercredi, le collège de Bouraille fêtera ses 40 ans. Et après la fête de Dumbéa ce week-end, c'est Boulou Paris qui prend le relais le week-end prochain avec la fête du cerf et de la crevette qui aura lieu samedi et dimanche sur l'hippodrome de la commune.
Et demain à 7h30, notre invitée du matin sera Naya Wateou, la présidente du SMTU. Près de 2 mois après la reprise du réseau Taneo, elle fera le point sur l'état des lieux du réseau et sur les perspectives à venir. Ne manquez pas également la rediffusion du magazine Transparence juste après la fin de notre édition. Elisabeth Noir recevait le professeur de droit Eric Deschmaker. Une interview disponible en audio et vidéo sur notre site internet. Je vous rappelle cette disparition inquiétante de mineurs à Païta. La gendarmerie de Nouvelle-Calédonie a lancé un appel pour retrouver Paul, qui n'est pas rentré à son domicile, de type mélanésien, 1m80 de corpulence normale, barbu et âgé de 15 ans, mais en paraît plus. Paul est vêtu d'un short noir et d'un tricot noir ou bleu nuit. Il est pieds nus. Si vous avez des informations, contactez la gendarmerie de Païta ou le 17. Et puis un accident de plongée hier à Dumbéa, la brigade nautique est intervenue au spot de surf à la passe de Dumbéa. Le plongeur, souffrant d'une douleur thoracique, a dû être évacué en urgence vers Nouville, où il a été pris en charge par une ambulance avant d'être transporté au CHT. La gendarmerie souligne qu'en l'espace de 2 semaines, il compte déjà 2 accidents potentiellement graves et plusieurs incidents en chasse sous-marine et en apnée. La vigilance est donc de mise. Passons à l'actualité festive et une belle réussite une fois de plus pour la fête de Dumbéa. Les portes de la 41e édition se sont refermées à 17h. En 2 jours, le parc Fayard a vu passer près de 20 000 visiteurs. Et l'animation phare, c'était ce midi, Léo Fichou, la traditionnelle omelette géante.
Oui, une omelette que les chevaliers et les bénévoles de la confrérie de l'omelette géante préparent depuis des semaines maintenant. Et ce matin, ils ont pu compter sur des renforts, des jeunes dumbéens volontaires et des élus de la commune, dont le maire Johan Le Courrieux. Chacun connaissait son rôle pour que l'omelette soit réussie.
Alors, je suis en train de casser les œufs pour la préparation de l'omelette géante de la ville de Dumbéa aux côtés des chevaliers de la confrérie.
Et là, ça enchaîne. On a combien d'œufs à peu près?
On en a rempli des saladiers. Plus de 200 par personne. Ça fait beaucoup. Ouais. Et là, on est sur les dernières palettes.
On est en train de mélanger les œufs, les battre pour mélanger le sel et le poivre. Je dégrossis avec un premier appareil et mon collègue, il va finaliser l'opération avec un plus petit moulinet.
Nous, on fait la découpe du pain.
Donc on a 25 pains de 2 kg chacun. On coupe le pain en petits morceaux pour mettre après dans les barquettes lors de la distribution.
Il faut aussi prendre soin du feu ?
Ah, il faut préparer la braise, oui, pour la cuire. Donc le feu, il faut s'en occuper. On va dire 4 heures, oui, ça fait 4 heures au moins que ça se prépare.
Et pendant que les bénévoles étaient attelés à préparer l'omelette, les visiteurs étaient, eux, déjà nombreux autour des barrières pour observer le spectacle.
Ouais, c'est sympa. Bah, avec les conditions climatiques qu'il y a eu toute la semaine et le soleil aujourd'hui, ouais, on est pas mal. Hein. On attend que, bah, surtout, qu'ils viennent avec leur marmite tout versée à l'intérieur. Donc 7500 œufs, si j'ai bien compris. Donc je pense que ça va mettre un certain moment pour que ce soit cuit.
C'est une belle fête, hein, quand on vient du bout du monde et que par chez nous, il y a encore un mètre de neige dans les Hautes-Alpes et qu'on découvre une ambiance comme celle-ci, c'est particulier, c'est bien agréable. Ça,
bah ça c'est super, en plus qu'il fait très beau, c'est bien, et il y a beaucoup de monde, il y a que génial. Hein.
Mon papa disait toujours, quand les anges voyagent, le ciel sourit, vous voyez, le soleil est la fête.
Et une fois servi, les visiteurs partageaient tous le même avis, l'omelette était excellente.
Succulente, un miel, très très bonne.
Ah, elle est terrible, elle est trop bonne. Et puis bah voilà, et par contre un peu déçu, il n'y a pas la fève, mais c'est pas grave, elle est bonne, on fait de la protéine.
On reviendra.
Bah, j'ai entendu que ça faisait 3 fois qu'ils faisaient aux saucissons de cerf. Franchement incroyable. C'est très bon, c'est local, on aime. Et franchement, avec le petit jeu de la fève, c'est amusant.
Elle est bonne, elle est très très bonne.
Et elle est top. Ouais.
Bah, elle est excellente, elle est bien assaisonnée, elle est très bonne.
Une omelette géante réussie donc à l'image de cette 41e édition de la fête de Dumbéa, fête qui a rassemblé, je le rappelle, près de 20 000 personnes et qui a refermé ses portes à 17h. Un bilan plus que positif pour le maire de Dumbéa, Yoann Lecourieux.
Bah, toujours une belle ambiance, on voit que les gens ils aiment bien partager un moment ensemble. En plus, il y a le soleil aujourd'hui aussi, donc comme hier, et l'ambiance est là. Quoi.
Quel bilan on peut tirer de ces 2 jours déjà ?
Une réussite parce qu'on est passé déjà à travers les gouttes, énormément de gens sur le site, plus de 7 000 à 8 000 personnes hier. On pense aujourd'hui passer, je pense, les 10 à 12 000 personnes. Et puis on voit le succès de l'omelette. Et puis en plus, il y a des surprises dans l'omelette. Donc on peut gagner des billets d'avion, des voyages. Donc les gens, ils sont là, ils sont présents.
Est-ce qu'on donne déjà rendez-vous pour l'an prochain ?
Bien sûr, à la 42e édition, dès l'année prochaine.
Et rendez-vous pris donc dans un an pour la 42e édition de la fête de Dumbéa.
Et la FOL a organisé une journée de la non-violence éducative. Les familles étaient nombreuses à participer aux ateliers gratuits destinés aux futurs parents ou aux familles avec des tout-petits. L'après-midi était consacré à l'éducation des enfants de plus de 3 ans. Les explications d'Hélène Lavanant, consultante en parentalité et organisatrice de la journée.
Pour l'instant, ça se passe bien. Il y a des espaces qui sont installés, il y a beaucoup de choses, il fait beau, il y en a une super vue sur Nouméa, les gens arrivent petit à petit, donc on peut dire que ça commence bien. Alors c'est une journée familiale pour donner un petit peu un échantillon des ressources qui existent sur le territoire pour soutenir les parents, pour leur donner un peu des outils et des ressources pour arriver à accompagner leurs enfants sans violence éducative. Et c'est vraiment dans une ambiance chaleureuse, il va y avoir un spectacle pour enfants, un concert, il y a plein d'espaces de jeux, donc vraiment un moment à passer en famille et des ateliers à faire en duo ou seulement pour les parents.
Des jeunes parents qui ont pu profiter de ces activités avec leur bébé.
C'est super, on se retrouve entre parents et puis on a nos petits bébés qui sont relaxés. C'est stimulant, je pense, pour les bébés aussi, de se voir entre bébés. Il y a des tout petits bébés qui ont quelques mois, je pense. Nous, notre fils, il a bientôt 10 mois.
C'est très bien, c'est cool. On découvre des trucs qu'on n'aurait pas fait tout seul à la maison, donc c'est sympa.
C'est tout nouveau, c'est intéressant. Les différentes postures, la posture de l'avion, là, fait à la maison, fait d'apporter des précisions sur quel organe ça touche.
Assez sympa. Je connaissais le yoga pour les adultes, mais du coup, voilà, pour les bébés, ben, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit moment avec eux, détente et tout.
Je suis là pour faire découvrir des nouveaux jeux à ma fille qui a 21 mois. Et du coup, là, c'est l'occasion de découvrir plein d'activités différentes, ludiques, pour la stimuler intellectuellement, voilà.
Une journée de la non-violence éducative qui s'est clôturée à 16h45 avec un spectacle pour enfants. 17h59, première pause dans ce journal avant de voir l'actualité nationale et internationale.
Savez-vous que quand plusieurs appareils sont branchés au même endroit, il est préférable de les brancher sur une multiprise équipée d'un interrupteur ? On peut ainsi couper l'alimentation de tous les appareils d'un seul geste.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonce-légale@rrb.nc ou au 25 46 46. Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'info au week-end, Lana Colombo.
Et l'actualité à l'international, en Iran, au moins 18 morts et 800 blessés. Le bilan a été revu à la hausse après une puissante explosion la nuit dernière pour nous dans le plus grand port de commerce iranien. Les pompiers luttaient toujours contre les flammes il y a quelques heures. La cause de l'explosion n'est pas encore connue. Et puis un automobiliste a foncé dans la foule lors d'un festival de rue à Vancouver au Canada, faisant plusieurs morts. Plusieurs personnes ont été tuées et plusieurs autres sont blessées, a indiqué la police de Vancouver sur X, précisant que le conducteur est en garde à vue. L'incident s'est produit alors que des membres de la communauté philippine se rassemblaient pour célébrer la journée Lapu-Lapu. Cette image qui a fait le tour du monde, celle de Donald Trump en tête-à-tête avec Volodymyr Zelensky sous l'immensité de la basilique Saint-Pierre de Rome. Les deux chefs d'État isolés et assis l'un en face de l'autre. Échange de 15 minutes qui s'est déroulé peu avant le début des funérailles du pape François. Un symbole extrêmement fort au moment où les États-Unis tentent d'accélérer les négociations pour la paix en Ukraine. Le président ukrainien s'est aussi entretenu avec Emmanuel Macron, l'italienne Giorgia Meloni, le britannique Keir Starmer, de quoi s'assurer du soutien de ses alliés européens, Volodymyr Zelensky.
Il s'agit de voir comment se rapprocher de la paix. Les réunions de Paris et Londres ont été fructueuses et positives et il faut continuer à organiser de telles réunions.
Côté américain, Donald Trump estime que Vladimir Poutine ne veut peut-être pas arrêter la guerre. Il accuse son homologue russe de le balader, écrit-il sur son réseau social. Il menace donc de frapper le système bancaire russe. Le Vatican théâtre donc d'intenses tractations diplomatiques qui se sont déroulées en marge des funérailles du pape François. Des obsèques qui ont rassemblé les foules. 400 000 fidèles étaient rassemblés tout le long du parcours. Il y a d'abord eu une messe célébrée à la basilique Saint-Pierre, puis le cercueil de François a été transporté en papamobile vers la basilique Sainte-Majeure, Marie-Majeure de Rome, où il s'était être inhumé. Désormais, une période de deuil de 9 jours débute au Vatican. 9 jours durant lesquels des célébrations religieuses auront lieu quotidiennement. Les 135 cardinaux, bientôt chargés d'élire le successeur du souverain pontife lors du conclave, ont du temps devant eux. Louis Salé revient pour Europe 1 sur les prochaines échéances à retenir.
Eh bien aujourd'hui, c'est le deuxième jour des Novem Dialis. C'est une période très réglementée par le Vatican qui correspond à 9 jours de deuil, débutant par les funérailles du pape. Patrick Valdrini est chanoine du Latran, une basilique romaine appartenante au Vatican.
Comme dans une famille, quand on est en deuil, on réduit ses activités, on pense particulièrement à la personne, et en l'occurrence, tous les jours, il y aura à Saint-Pierre une messe qui sera dite par un célébrant qui changera. Une messe qui sera dite pour le pape.
Et l'élection du futur souverain pontife ne peut débuter avant que cette période de deuil ne soit terminée. Ce sera le cas lundi 5 mai. Le conclave pourra alors commencer, sauf si les cardinaux souhaitent attendre quelques jours supplémentaires. Pour l'heure, aucune date n'a été fixée. En attendant, les cardinaux se réunissent à l'occasion de ce qui s'appelle les congrégations générales. Elles permettent de préparer le conclave, de discuter des priorités de l'Église et de dresser un portrait robot du prochain pape. La prochaine de ces rencontres aura lieu demain à 9h.
Les explications de Louis Salé à Rome pour Europe 1. Le Premier ministre néo-zélandais Chris Luxon vient quant à lui de livrer ses premières impressions après avoir assisté aux funérailles du pape François. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Chris Luxon a déclaré que c'était, je cite, « un immense privilège d'avoir représenté la Nouvelle-Zélande et toute la communauté catholique de son pays à ses funérailles. C'était vraiment spécial », a-t-il insisté, avant d'ajouter qu'il avait également eu l'occasion de rencontrer certains des dirigeants mondiaux présents comme lui au Vatican. Il a toutefois précisé que les conversations qu'il a eues avec eux ont été brèves et informelles. Le seul cardinal de Nouvelle-Zélande, John Dew, a déclaré de son côté que l'enthousiasme et le désir des fidèles de venir dire au revoir au pape étaient exceptionnels. Cela en dit long sur l'estime qu'il inspirait, a-t-il ajouté, avant d'affirmer que de lui choisir un successeur sera une tâche ardue. Le prochain pape devra être un leader en matière de foi et de pratique de l'Évangile, et surtout quelqu'un qui encourage les autres à vivre l'Évangile, a-t-il dit. À Sydney, Jean-Pierre Saint-Jacques, RRB.
Et pour représenter l'Australie, la gouverneure générale Samantha Mossin était présente aux funérailles. Avant de refermer cette page, notez que l'invité du grand rendez-vous européen CNews Les Échos cette semaine sera Amélie de Montchalin, ministre chargée des comptes publics. Une émission que vous retrouverez sur RRB demain soir, juste après Info Soir, votre grand journal de 17h45. Je vous le disais, il est 18h05 et c'est la seconde pause avant de voir tout le sport.
L'association Les Petits Pansements du Cœur mène campagne pour que les rêves des enfants malades chroniques hospitalisés se réalisent. Jusqu'au 21 mai, envoyez don au 36 77 233 francs le SMS. La somme sera intégralement reversée à l'association. En partenariat avec Atto SMS Média et l'OPT, objectif 14 000 SMS. Calédoniens du Nord, des îles et du Sud, ces enfants sont les vôtres, sont les nôtres. Nous sommes tous concernés. Faisons-les rêver.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite du journal et c'est du sport, Léana Colombo.
Et on ouvre notre page sport avec du football. Et en métropole, la 31e journée de Ligue 1 continue la nuit prochaine, Léo Fichou.
Oui, Angers reçoit Lille, Lens accueille Auxerre, Montpellier qui est relégué en Ligue 2 officiellement défie Reims. Les Nantais d'Antoine Comboiré sont opposés à Toulouse. Et enfin, en clôture, demain matin, Marseille recevra Brest au stade Vélodrome. La nuit dernière, Lyon a écrasé Rennes 4-1. Strasbourg continue sa belle saison en dominant Saint-Etienne 3-1. Et Le Havre a tenu en échec Monaco un but partout. Pour rappel, en ouverture de cette 31e journée, Nice a fait chuter le PSG invaincu depuis le début de la saison sur le score de 3-1.
On passe au rugby avec la 22e journée de Top 14.
4 matchs étaient au programme la nuit dernière. Clermont a battu Lyon 39-31. L'Aviron Bayonnais a dominé la section paloise 27-22. Montpellier est venu à bout de l'USAP 19-13. Le promu Vannes renoue avec le succès, victoire 29-19 sur Toulon. Et puis le Stade Rochelet s'est imposé 21-10 sur la pelouse de l'Union Bordeaux-Bègle. En ouverture de cette 22e journée de Top 14, le Stade Toulousain, solide leader, a écrasé le Castres Olympique 52-6. Demain matin, en clôture, on aura le droit à un derby francilien entre le Racing 92 et le Stade Français.
Du rugby au féminin, avec la défaite de l'équipe de France lors de la dernière journée du tournoi des Six Nations. Défaite 42-43 contre l'Angleterre. Les Anglaises qui réalisent donc le grand chelem. On passe au sport mécanique. Avec de la moto, les pilotes sont en Espagne ce week-end.
C'est le 5e Grand Prix de moto de la saison. Une fois de plus, les frères Marquez sont au sommet, intouchables ou presque depuis le début de la saison. Marc s'est imposé cette nuit sur la course sprint devant son frère Alex et son coéquipier Pecco Bagnaia. Les Français Joan Zarco et Fabio Quartararo ont chuté. El Diablo était pourtant parti devant tout le monde puisqu'il avait décroché la pole position. Mais il a tenu qu'un tour avant de tomber, chuter, une chute en moto. Donc ce soir à 23h, il s'élancera de nouveau en pole position. Position devant Marc Marquez et Pecco Bagnaia. Joan Zarco partira de la 10e position.
Un mot du championnat du monde des rallyes. 4e manche ce week-end en Espagne aussi, mais aux îles Canaries. Après 12 des 18 spéciales, le Finlandais Calle Rovanperä est toujours en tête devant le Français Sébastien Ogier et le Britannique Elfyn Evans. Et puis du cyclisme à suivre ce soir avec la suite des grands classiques de la saison.
Après Paris-Roubaix, il y a 8 jours et la Flèche Wallonne mercredi, les coureurs prendront le départ dans la nuit de la 111e édition de Liège-Bastogne-Liège. Au menu pour les coureurs, 252 km, jalonnés de 11 ascensions et près de 4400 mètres de dénivelé positif. Une course qui s'annonce décisive dans le final, comme souvent. Et les favoris sont une nouvelle fois Tadej Pogacar et Remco Evenepoel.
Un mot de basket avant de passer au sport sur le territoire.
8 jeunes calédoniens licenciés à l'AS 6e kilomètre étaient à Paris ces derniers jours. Ils participaient à la finale nationale du Challenge Benjamin. On notera que Gian a décroché l'or avec son équipe de basket 3 contre 3. En individuel, chez les filles, Janaël termine 21e sur 31. Et chez les garçons, Gian termine lui 17e sur 31.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. À Dimbéa, c'est le 98.
Les sports sur le territoire, donc avec du karting ce matin à Dumbéa et le retour du championnat de Calédonie.
Une première manche sur la piste de Nakutakouin qui a démarré à 7h30 et qui s'est terminée aux alentours de 13h. Une matinée qui a rassemblé 20 pilotes dans trois catégories différentes. La première, les minimes cadets âgés de 7 à 10 ans. Puis la catégorie dite nationale avec des jeunes âgés jusqu'à 13 ans. Et puis la catégorie DD2 qui concernait les pilotes de 15 à 74 ans. Mike Girold est le vice-président de la Ligue du sport automobile de Nouvelle-Calédonie.
Il fait chaud, il fait beau, mais on est content. Le karting en compétition reprend après une année 2024, malheureusement, en stand-by, avec tout ce qui a pu se passer. Hein, on ne va pas revenir dessus. Mais voilà, un redémarrage, un beau plateau, 20 pilotes, des belles courses. Donc effectivement, le sourire est présent. Aujourd'hui, on est content. On a plus de la moitié du plateau qui sont des mineurs, des jeunes. Donc on est content, c'est l'espoir, c'est le futur. Et effectivement, 20 pilotes par rapport au passé, c'est peu, mais il faut un début. Et voilà, on espère que bientôt, on arrivera à un beau plateau.
Et parmi les pilotes, on retrouve Loris, Luca et Ethan. Ils étaient tous les trois très contents de reprendre la compétition sur le territoire ce matin, après une longue trêve.
Je m'appelle Loris, j'ai 15 ans et je roule pour Time Racing. Ça faisait un an et demi, presque deux ans qu'on n'avait pas eu de course. Et là, ce matin, il fait beau, il y a du monde, c'est super.
Je m'appelle Luca Padovez-Robot, j'ai 15 ans. Et je roule pour Velocity Race Division. Bah, je suis content que les manches elles reprennent en Calédonie, mais ça énerve un peu de perdre les freins en étant en premier. Mais ouais.
Je m'appelle Ethan Courtois, j'ai 11 ans et j'étais content de retrouver le circuit. C'est bien passé. Bah, mon objectif, bien sûr, c'est de finir premier. Hein. Mais au moins de finir sur le podium, ça serait déjà bien. Et après, c'est toujours amusant de rouler avec les copains, s'amuser. Le plus important, c'est de participer, de s'amuser.
Et notez déjà que les prochaines manches du championnat de Calédonie de karting auront lieu le 6 juillet, le 31 août et puis le week-end du 25 et 26 octobre.
Et nous reparlerons de karting demain à la mi-journée dans notre Mac des Sports puisque Mike Girold, vice-président de la Ligue du sport automobile de Nouvelle-Calédonie, sera notre invité. Et il n'y avait pas que du karting ce week-end sur le territoire. Les amoureux de sport en pleine nature avaient rendez-vous à Bouraille.
C'était la 11e édition du X-Deva au domaine de Deva, donc avec au programme un cross triathlon en solo ou en équipe hier matin, puis ce matin la course VTT de 28 km. Après 1h et 33 minutes de course, c'est Alix Dudouet qui s'est imposé. On l'écoute.
Eh ben, parcours super, extrêmement glissant sous bois, vraiment technique. Labo, vraiment très glissant, donc vraiment technique en sous bois, là où normalement si ça déroule, voilà, il fallait aller vraiment sur les œufs pour assurer de pas tomber. Ça, quoi. Et avec une belle côte pour finir en plein soleil, donc une bonne course. Bien difficile. Première côte, je passe devant et j'arrive à rester jusqu'au bout, donc nickel.
Alix Dudouet, vainqueur du X-Deva VTT devant Romain Lègle et Ludovic Lanceleur. Chez les dames, c'est Jessica Bellangué qui s'est imposée à la photo finish devant Sabrina Lelièvre. On notera sur le cross triathlon format M, les participants devaient parcourir 1200 mètres dans l'eau, 25 km en VTT et 8 km de trail. C'est Ludovic Lanceleur qui a passé la ligne d'arrivée en tête. Victoire au sprint devant Jonathan Berger. On écoute le vainqueur.
Mon expérience de sportif hein, qui commence à être longue. Je crois que c'est la première fois que je finis aussi serré, coude à coude avec Jonathan. On a fait une belle bagarre au sprint, un long sprint qui s'est lancé à 1,5 km. Donc là, je finis vraiment serré. Et voilà, donc je suis super content. Et vraiment, merci aux organisateurs aussi parce que parcours génial, pas un souci de balisage, les gens qui encouragent, le ravitaillement, tout. On est vraiment bien.
Et Ludovic Lanceleur qui s'est donc imposé sur le cross triathlon X-Deva. Chez les dames, c'est Sandrine Frogier qui l'emporte.
Et merci beaucoup Léo Fichou. Il est 18h14, on passe tout de suite à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Alors voyons toute la météo avec vous Nicolas.
Alors cette nuit, après quelques averses en soirée sur le nord-ouest, le ciel de la côte ouest se dégagera. Ailleurs, le temps sera passagèrement nuageux avec quelques ondées plus nombreuses sur le nord-est. Sur la pointe sud, le vent s'orientera au nord-est entre 5 et 10 nœuds. Le reste du territoire sera la plupart du temps déventé. Les températures minimales seront toujours très élevées. pour la saison avec de 21 à 24 degrés. Demain matin, sur l'île des Pins, la façade est et les loyautés éclaircies et passages nuageux accompagnés de petites averses alterneront. Ailleurs, malgré l'arrivée de quelques nuages élevés, le soleil restera bien présent. De secteur nord dominant, le vent oscillera entre 5 et 10 nœuds, localement 10 à 15 nœuds sur l'extrême sud de l'île des Pins, Léana.
Merci beaucoup, Nicolas. C'est la fin de cette édition.